Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous entamons là la deuxième semaine de carême. Et le point focal de la liturgie de la parole d'aujourd'hui se trouve sur la transfiguration. Il faudrait peut-être pour cerner la teneur de cet événement, il faudrait revenir sur ce qui s'est passé au chapitre 8, parce que là, nous sommes au chapitre 9. Au chapitre 8, en fait, Pierre venait de professer sa foi au Messie, au Fils de Dieu. Et Jésus a accueilli cette profession de foi. Et pourtant, il a essayé d'y apporter des précisions, disant aux apôtres qui devrait souffrir, être rejeté des anciens, connaître la mort, et puis ressusciter au troisième jour. Depuis ce moment-là, existait une confusion dans l'esprit des apôtres, dans l'esprit des disciples. Ils ne pouvaient pas saisir comment l'envoyé de Dieu, le Messie, pouvait tomber victime, être arrêté, être mis à mort par les gens du peuple. Et pourtant, d'après eux, le Messie avait l'autorité de Dieu, avait le pouvoir de Dieu, et il était venu établir un royaume sur la terre pour libérer le peuple d'Israël. Voilà que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, Marc au chapitre 9, ce qu'il fait, il prend avec lui trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et il les amène, dit le texte, sur une haute montagne, sur le mont Tabor, et là, il fut transfiguré devant eux. Mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait renforcer, raffermir la foi de ses apôtres. Il voulait les rassurer. Il voulait les relever. Il voulait leur donner de la force pour que le moment venu, le moment de la crucifixion, eh bien, qu'ils puissent passer outre, qu'ils puissent affronter ces moments de difficulté-là, ce moment difficile, le moment d'épreuve. En fait, les trois apôtres représentent chacun des baptisés. Parce qu'en fait, depuis notre baptême, nous avons accueilli le Seigneur, nous avons mis notre foi dans le Christ. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes mis en route. Nous sommes des pèlerins sur cette route de la foi. C'est continuellement que nous essayons de grandir dans la foi. Alors, le Seigneur nous invite à monter sur le mont Tabor, là où il va raffermir nos forces, là où il va nous donner sa lumière pour nous permettre de faire face à nos épreuves. Mais pour comprendre notre itinéraire de foi, pour comprendre notre cheminement, la liturgie de la parole nous propose la figure d'Abraham, dit le père de croyants. Abraham, tel que l'Écriture nous le rapporte, et même beaucoup de commentaires autour du même texte que nous avons proclamé, eh bien, Abraham est reconnu père de croyants, surtout à partir de deux événements qui sont arrivés dans sa vie. Le premier, c'est quand, lors de sa vocation, qu'on appelle la vocation d'Abraham, quand Dieu l'a appelé de son pays à lui, de sa famille, où il était à l'aise, en sécurité, où il vivait une vie agréable. Et le Seigneur va le faire sortir de son confort pour lui dire, écoute, quitte le pays de ton père, la maison de tes parents, pour aller au pays où je t'indiquerai. Remarquez que le Seigneur ne dit pas à Abraham exactement où il va aller, mais il lui demande de se mettre en route. Et Abraham, ne sachant pas vraiment où il allait, il accepte de se mettre en route parce qu'il fait confiance au Seigneur. Il a sa foi dans le Seigneur. Il sait que le Seigneur va l'amener où il y a de la vie, où il y a de la paix, où il y a de la joie. Mais un deuxième événement qui est arrivé dans la vie d'Abraham, c'est que le Seigneur lui avait promis une descendance. Abraham, à ce moment-là, n'avait pas d'enfant. Il lui a promis une descendance, et pas n'importe quelle descendance, une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, que le sable au bord de la mer. Tenez-vous bien, Isaac est venu au monde 25 ans après la promesse de Dieu. Abraham a dû avoir de la patience, a dû attendre, et dans sa foi, il espérait toujours, et il croyait toujours que le Seigneur allait faire signe de vie, que le Seigneur allait accomplir sa promesse. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, le même Seigneur demande qu'Abraham sacrifie son fils, sacrifie Isaac. Et là encore, Abraham accepte de le faire, il a foi en Dieu. Il croit, comme dit l'Épître aux Hébreux, que le Seigneur peut même ressusciter les morts. Et il amène son fils au bûcher, il amène son fils pour la crucifixion, le sacrifice. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que Abraham n'a pas eu une vie toute rose. Abraham a connu des épreuves, a connu des moments difficiles. En fait, Abraham reflète notre vie à nous les baptisés. Être chrétien, chrétienne, être disciple du Christ, ce n'est pas passer une vie calme, en toute tranquillité, sans secouement, sans difficulté. Nous connaissons aussi des épreuves comme baptisés, comme des personnes de foi. Nous connaissons des moments difficiles, nous avons des moments d'hésitation, des moments de doute, nous avons des moments d'obscurité dans notre foi. Et voilà que, en suivant l'exemple d'Abraham, nous voudrons faire mieux. On ne peut que regarder des types d'événements difficiles qui arrivent dans nos vies et qui font secouer notre foi. Des événements de malheur comme la maladie, comme l'échec dans la vie, comme la mortalité. Nous faisons face à des épreuves, à des écueils sur notre chemin de vie, sur notre chemin de foi, quand nous vivons sous l'impression de tomber toujours dans le même péché, de toujours tomber dans les mêmes habitudes, de ne pas avancer, de faire de surplace, de tourner en rond, comme si on n'avançait pas dans la vie spirituelle. L'impression d'une prière non exaucée. Tout cela sont des épreuves dans la vie des croyants. Il y a aussi cette incapacité qu'on ressent, cette, en capacité d'attirer de jeunes dans nos communautés, d'attirer de jeunes couples, de jeunes familles dans notre communauté. On se pose des questions, on se regarde, on se dit, où on s'en va? Alors on réfléchit sur sa foi, on trouve difficile. Il faut reconnaître le malaise que nous ressentons de foi pour dire Jésus-Christ en public, dans nos milieux de vie, dans nos familles. Il y a une hésitation, on a honte. Alors, quand on revient sur soi-même, on se pose des questions. On se dit, et on réalise que ce n'est pas facile de croire au Seigneur, qu'il y a des moments difficiles, des moments durs qu'il faut surmonter et avancer continuellement. Alors, le doute est toujours là. Le doute de voir, par exemple, dans notre communauté chrétienne, le doute de voir si nous aurons assez d'efforts, que nous serons assez organisés pour amener de l'avant notre renouveau pastoral. Il faut toujours la foi, croire au Seigneur, malgré les difficultés qui peuvent arriver. Voilà, vivant ces difficultés-là, vivant ces moments d'obscurité, ces moments d'épreuve, ce moment d'encombre, d'écueil sur notre vie de foi, voilà que le Seigneur nous invite à aller avec lui, en silence, dans la prière, à gravir la montagne, le mont Tabor, et de rester avec lui au sommet. Le mont Tabor, le mont de la Transfiguration, c'est l'Eucharistie que nous célébrons, c'est le sommet de la spiritualité chrétienne. Et le Seigneur nous y invite, nous accompagne et il veut nous remplir de sa vie, nous remplir de sa lumière. Il voudrait que que sa lumière, la splendeur de sa personne, puisse dissiper les ténèbres de nos doutes, de nos hésitations, les ténèbres de nos peurs et que nous puissions nous renouveler complètement. Il voudrait que par sa lumière, nous obtenions les grâces nécessaires pour surmonter les épreuves dans notre vie. Dans notre vie de chrétien, de chrétien, dans notre vie de foi. Alors il nous faudrait contempler cette splendeur de Dieu pour que les ténèbres soient écartées et dissipées. Le Seigneur veut nous donner le sens à notre vie. Il faut redonner sens à notre vie, nous rappeler ce pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes là. Mais le plus important, c'est écouter cette voix du Père qui nous dit, voici mon fils, écoutez-les. Le Père nous invite à écouter son fils. Mais écouter son fils, c'est accueillir sa parole. Il faudrait laisser que cette parole puisse loger en nous, descendre en nous. Et comme dit le texte biblique, eh bien, comme le grain de blé qui tombe en terre, mais quand il ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits. Il faudrait qu'il meure, qu'il éclate. Alors à ce moment-là, il produit des fruits en abondance. De la même manière, laissons la parole de Dieu loger en nous, plonger en profondeur en nous. Laissons-la mourir en nous, comme le grain de blé. Et quand cette parole meurt en nous, alors elle peut devenir une semence. Alors à ce moment-là, elle produit des fruits à profusion. Et à partir de ce fruit-là, eh bien, c'est tout notre être qui est entraîné, c'est tout notre être qui devient inspiré par le suc de cette parole qui se trouve en nous. Et nous serons inspirés pour vivre cette parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand cette parole entre en nous et qui nous remplit, alors nous laissons Dieu s'exprimer. Alors nous laissons notre âme de fils de Dieu, c'est dire. D'ailleurs, saint Augustin a une belle parole là-dessus. Il dit, en fait, quand le Verbe grandit en nous, alors les paroles de l'être humain diminuent. Et moi, je dirais, quand le Verbe de Dieu grandit en nous, alors seulement nos paroles d'enfants de Dieu, nos attitudes et notre style de vie d'enfants de Dieu s'expriment davantage. Regardez, le Seigneur qui est arrivé au sommet avec ses apôtres, après avoir vécu l'expérience de la transfiguration, il les invite à descendre. On ne reste pas au sommet. Il faut descendre pour aller rencontrer les personnes qu'on a laissées, pour retourner dans son quotidien, reprendre le train-train de la vie et mener sa vie, comme tout le monde, à l'ordinaire. Mais seulement, quand on descend de la montagne, on ne peut pas mettre de côté, entre parenthèses, l'expérience de la transfiguration qu'on a vécue. Quand on a été transformé par l'Esprit du Seigneur au haut de la montagne de l'Eucharistie, quand nous avons été touchés par la parole de Dieu, quand nous avons été remplis d'allégresse du Seigneur, alors en descendant de la montagne, nous apportons cette expérience vitale dans le quotidien. Alors le quotidien devient transformé, devient touché, devient inspiré aussi par notre expérience de la transfiguration. C'est en descendant, habité par l'expérience de la transfiguration, habité par la grâce de Dieu, habité par la parole de Dieu, que nous pouvons à ce moment-là immoler nos Isaac. Qui sont nos Isaac? Eh bien, c'est notre propre personne. C'est quelque chose qui nous est le plus cher. Ce à quoi nous nous attachons vraiment, Isaac. Alors, ce qu'il faudrait, c'est apprendre à donner notre être, nous donner au Seigneur, nous rendre au Seigneur, nous abandonner dans ses mains, nous mettre à sa disposition. Nous savons que, comme le dit Paul, le Seigneur a tout donné en sacrifiant son Fils. Il n'a pas épargné son Fils pour notre salut. Avec lui, il nous a tout donné. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Alors, quand nous nous tournons vers lui, qui s'est donné à nous totalement, c'est dans cet même élan, dans cet même esprit que nous devons aussi répondre à cet amour, en donnant tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, en offrant, en nous donnant entièrement au Seigneur pour être à son service. Et cela, c'est continuellement que ça nous arrive à rendre service au Seigneur, rendre service aux autres durant toute notre vie. Parce que Dieu se donnait à nous, alors on se donne aussi à lui. Regardez comment Abraham s'est focalisé sur son fils Isaac. Hein? Il ne voyait que lui. Tout ce qui était autour de lui, c'était seulement son fils. Mais Dieu lui a ouvert les horizons. En demandant de se dépouiller de son fils, Abraham s'est rendu compte qu'en fait, qu'il fallait voir plus loin, qu'il était le père des nations, qu'il était le père des croyants, qu'il ne faut pas qu'il reste figé dans son petit coin. Alors l'expérience du sacrifice de son fils a élargi son cœur. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. On peut avoir des biens matériels qui peuvent considérer comme nos fils uniques, des biens matériels, des biens intellectuels. On peut avoir une charge, une mission, une autre renommée, des choses auxquelles on s'attache tellement. Et on a difficile à nous en dépouiller. Alors quand le Seigneur nous demande ce sacrifice, c'est toujours pour nous élever, pour ennoblir notre cœur, pour enrichir notre vie, pour élargir notre horizon. Et c'est continuellement qu'il agit ainsi. Mais j'aimerais bien finir avec l'exemple de Martin Luther King. Regardez, Martin Luther King était au sommet de sa vie, disait-il, quand il a reçu le prix de Nobel, le prix Nobel de la paix. Alors, quand il est revenu chez lui aux États-Unis, alors qu'on le célébrait dans sa ville natale, dans sa ville, et voilà que il prononce son discours de remerciement où il reconnaît que vraiment, avec le prix Nobel de la paix, il se sent être au sommet de sa vie. Il est dans les honneurs. Il est dans les louanges, dans les applaudissements. Il aimerait garder ce moment-là et rester là pour toujours. Mais non, dit-il, il y a une voix en lui qui lui disait, mais non, il faut descendre. Il faut descendre de la montagne, continuer à œuvrer, à travailler pour l'égalité des races, l'égalité des hommes et des femmes, pour la justice sociale, pour le bien des autres. Dans notre vie, nous ne serons jamais appelés à rester au sommet. Nous serons toujours appelés à descendre et à faire du bien aux autres. Même au soir de notre existence, le Seigneur nous demandera de remettre notre vie biologique. Il ne faut pas hésiter. Quand le moment sera venu, on lui fait don de notre vie biologique. Mais lui, comme il a fait avec Isaac, il va prendre cette vie-là, mais il va nous la redonner améliorée. Il va nous la redonner en vie éternelle, en vie de communion avec lui. Et là, en vivant en communion avec lui, nous resterons avec lui pour toujours. Que ce deuxième dimanche de carême vienne préparer davantage nos cœurs pour vivre l'expérience de Pâques au jour de la résurrection du Seigneur, pour que nous-mêmes, nous devenions des signes vivants de la vie du Seigneur, des signes vivants de son amour éternel. Amen.